Visarjana, dans ce chapitre, on va parler de tes vies professionnelles au pluriel pour montrer aussi comment tu as concilié créativité, travail et spiritualité dans ta vie. Tu venais d'une famille de photographes, tu étais attiré par l'image, par le dessin. Et puis, par malheur, après ta première année aux arts appliqués, tu as échoué à cause du dessin technique et tu t'es reporté sur des études commerciales. Et tu es devenu propagandiste à Publicitas. Qu'est-ce que c'est, propagandiste ?
Ben alors, Publicitas, à l'époque, était une grande boîte qui avait des succursales dans la Suisse entière. À Bienne, on était, je crois, 40, et puis on était responsable de la partie publicitaire du Bildtagblatt et du journal du Jura, qui sont les deux journaux quotidiens de Bienne. Et mon job, c'était d'acquérir des annonces pour des numéros spéciaux consacrés à certaines matières. J'écrivais donc des lettres d'invitation aux annonceurs pour qu'ils se joignent à ce numéro spécial. Après, j'allais les visiter pour acquérir les annonces. Je faisais la maquette de ces éditions spéciales et j'apportais le matériel à l'imprimerie. Alors, j'avais aussi des relations avec l'imprimeur et celui qui mettait en page les numéros spéciaux. Aujourd'hui, tout ça se fait sur ordinateur en un clic. À l'époque, il fallait un cliché en plomb et puis il fallait le transporter ou l'envoyer par la poste. Vous voyez les difficultés qu'on n'a plus aujourd'hui.
En même temps, tu regardais avec beaucoup d'envie les créateurs publicitaires. Tu avais envie de les rejoindre.
C'était mon projet depuis très tôt. Et déjà, dans la dernière année de l'école de commerce, on pouvait faire un stage pratique dans une entreprise et puis on pouvait dire quel genre d'entreprise on voulait. Et moi, j'ai dit, j'aimerais aller dans une agence de publicité. Et je suis tombé dans l'agence Brühlmann et Contini à Bienne. Monsieur Brühlmann, un des deux chefs, était le papa de Eva Brühlmann, qui allait aussi à l'école commerciale, mais dans la classe francophone. Mais je la connaissais comme ça. Et puis, ce papa Brühlmann est devenu un personnage très important dans ma vie, en quelque sorte mon mentor. Mon premier contact avec lui, c'était pendant ce stage pratique. Et puis, c'est là qu'il m'a fait écrire ma toute première annonce. Quelque part, la direction était donnée. Et des années plus tard, je l'ai retrouvé. Il avait quitté son associé Contini à Bienne et puis il est allé à Lausanne où il est devenu directeur de l'agence Trio. Et Trio est l'agence la plus ancienne de Suisse. Et puis elle était spécialisée dans l'horlogerie. Elle existe encore aujourd'hui. Et puis ce qu'on a fait, par exemple, quand j'y étais, c'était lors du débarquement lunaire américain, on a fait une campagne de publicité internationale, même mondiale, pour parler que ces astronautes portaient autour du poignet une montre Omega. Et j'étais à ce moment-là dans le département de médias. Monsieur Brühlmann m'a fait commencer là, alors qu'il savait que mon rêve c'était d'être dans la création, mais il n'y avait pas de possibilité dans la création à ce moment-là. Et il m'a dit, vous allez commencer par les médias et puis on verra plus tard. Alors, quand on travaille dans les médias, ce qu'on fait, on place les annonces dans les supports, dans les journaux, à la télévision, etc. Et puis particulièrement cette campagne mondiale m'a fait placer des annonces dans le Asahi Shimbun à Tokyo et des trucs comme ça, ce qui n'était pas évident parce qu'il fallait envoyer le cliché en plomb autour du globe et puis qu'il arrive au moment où l'annonce était censée paraître.
Est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette histoire, c'est que vous avez dû envoyer physiquement dans tous les pays du monde deux clichés?
Oui, parce que si le débarquement aurait pas eu lieu, aurait raté, on n'aurait pas pu retirer ces annonces parce qu'il fallait les réserver des semaines à l'avance. Et puis, donc, on a envoyé simplement deux clichés différents avec l'instruction, si le débarquement réussit, vous mettez le cliché 1, et s'il rate, vous mettez le cliché 2. Et puis, on leur donnait les ordres par fax. À l'époque, ça se faisait par fax. Internet n'existait pas encore.
De travailler comme ça à l'international, c'est quelque chose qui t'a beaucoup plu.
Oui, bien sûr. Moi, je suis quelqu'un de fondamentalement curieux. Ça se reflète aussi dans mes lectures. Je dévore tout, des biographies, des monographies sur les pays du monde entier. Je m'intéressais de toute façon à l'Asie, à l'Inde, au Japon. Et puis, je connaissais plein de choses de ces pays.
Dans cette agence Trio, il y a eu quelques projets très marquants, comme par exemple le fait de créer complètement un magazine qui s'appelait Fruta et qui correspondait à tes valeurs puisque ça faisait la promotion des fruits en Suisse, mais aussi qui, là, te permettait de passer du côté des créatifs.
Oui, Fruta, c'était toute une expérience. Malheureusement, ça n'existe plus parce que ça coûtait très cher. C'était un magazine qui sortait 3 ou 4 fois par année et qui était distribué dans la Suisse entière. Il y avait un tirage de 1 million et quelques. Alors, c'était déjà un challenge d'écrire des textes pour un truc aussi répandu, aussi gros. Et puis, j'avais des libertés de rédacteur assez intéressantes parce que j'étais responsable quasiment de tout le contenu, de la première à la dernière page. Bien sûr, il fallait respecter les désirs du client. Le client, c'était la Fruit Union Suisse, qui est la fêtière de tout ce qui produit des fruits en Suisse. C'était très intéressant parce qu'on faisait des conférences avec tous les responsables. Il y avait les représentants des producteurs de fruits, surtout des Valaisans et des Turgoviens. Il y avait ceux qui transportent et entreposent les fruits, et il y avait ceux qui les vendent. Et dans les vendeurs, ce qui était important, c'était les gros distributeurs, Migros et Coop, mais aussi des plus petits distributeurs. Et tout ce monde était représenté dans un comité qui discutait du contenu de ce Fruta. C'est là que j'ai eu des batailles épiques pour défendre mes idées. C'était l'époque où on commençait de parler de la santé. C'était une nouvelle idée qu'on privilégiait la production intégrée ou même bio. Bio, c'était encore de la musique du futur à ce moment-là. Mais la première phase, c'était la production intégrée. Et puis, Moi, je voulais favoriser ça dans le contenu du fruta. Mais pour les producteurs qui étaient des paysans, horticulteurs, valaisans et turcoviens, c'était des idées tout à fait nouvelles. Et d'abord, ils avaient de la peine à intégrer ça. Ils trouvaient que j'avais des idées farfelues. Alors, je devais défendre mes idées et heureusement, j'avais le chef de marketing de la Coop, un Balois, qui était de mon côté. Mais ça donnait des discussions des fois épiques.
Quand on parle de ce travail-là, on est dans les années 80-90, donc tu es à Lausanne, tu es avec Shinta, tu es sannyas, et donc tu es habillée en rouge avec un mala, et tu allais à toutes ces réunions en affichant ton appartenance à
Oui,
Osho.
et curieusement, ça m'a pratiquement jamais posé de problème. Des fois, ils me regardaient un peu de travers. Généralement, ils n'osaient pas poser des questions. Et quand ils posaient des questions, ils acceptaient tout à fait mes réponses. Alors, j'avais curieusement très peu de problèmes.
Un autre projet qui a été important pour toi, c'est la création d'une BD qui était destinée aux ambassades suisses dans tous les pays. Donc là aussi, c'est quelque chose qui a été diffusé à des milliers, des centaines de milliers d'exemplaires et surtout dans un nombre incalculable de langues. Et là, tu as créé tout le projet.
Oui, enfin, je l'ai créé ensemble avec le dessinateur qui était un spécialiste de la BD. Moi, j'avais l'idée de base et puis j'écrivais les textes et lui, il jouait avec mon idée pour la transposer en images. C'était une idée un peu farfelue, une astronaute du futur qui visite la planète Terre, qui découvre les différents pays. Et le but, c'était de soutenir le travail des ambassades suisses. Une chose qui arrivait souvent, c'est qu'ils avaient des demandes d'étudiants ou d'écoliers du style: dans mon école, je dois faire une conférence sur la Suisse. Est-ce que vous avez du matériel que vous pouvez m'envoyer? Et puis, on a eu l'idée de créer exprès une BD qui était axée sur un public jeune pour expliquer ce que c'était la Suisse, qui étaient les forces de la Suisse. Évidemment, on parlait de fromage, évidemment, on parlait de montres et de machines et tout ce que la Suisse produit, mais il fallait pas que ce soit rébarbatif. Alors, c'était dans le cadre d'une histoire un peu qui peut intéresser les jeunes.
On pourrait parler de beaucoup de projets pour lesquels tu as travaillé pendant toutes ces années, parce qu'encore aujourd'hui, il t'arrive d'avoir des mandats, donc c'est dire s'il y en a eu beaucoup. Mais quand tu as 40 ans à peu près, tu deviens indépendant, freelance, tu travailles à ton compte. Et j'imagine que ça a dû faciliter le fait que, parallèlement à ton travail, tu t'es formé dans toutes sortes de choses, qui étaient l'astrologie, qui étaient les constellations familiales. C'était pas très connu à l'époque, et tu as même rencontré le créateur Bert Hellinger et sa femme. Il y avait le Reiki, donc tu étais en formation continue en parallèle.
Oui, ça c'était évidemment ma chère épouse Shinta qui m'a mis sur la piste de la thérapie. Je voulais l'aider dans son travail à elle. Elle animait des groupes. Alors l'idée est venue, pourquoi on ne les anime pas ensemble? Et il y avait un échange assez intéressant entre elle et moi. Des fois, c'est moi qui avais une idée. Par exemple, le Reiki, c'est en premier moi qui était intéressé par le Reiki. Parce que c'était japonais et puis la culture japonaise m'a toujours intéressé. Alors, un jour, je dis à Shinta, je vais faire un stage d'initiation au Reiki, est-ce que tu viens avec moi? Alors, on est allés les deux, on a fait cette initiation au Reiki ensemble, et bien vite, on a trouvé, c'est merveilleux, c'est une technique qui nous remplit de bonheur. Alors, Shinta a pris la décision, je vais me faire initier maître en Reiki. Là, c'était elle qui était avant moi, et moi, je l'ai suivie plus tard, et c'est elle qui m'a initié, moi, maître en Reiki. Et après, pendant des années, on a animé des stages de Reiki ensemble, aussi bien en Suisse que plus tard à l'étranger, en France, en Belgique et même dans les pays francophones d'Afrique, on y a enseigné le Reiki.
Dans cette vie parallèle qui va prendre de plus en plus de place, hein, ça veut dire que toute la semaine, c'était la publicité, puis ensuite le vendredi, des voyages, des enseignements. C'était une vie très dense.
Oui, pendant des années, je tournais à plein régime, 7 jours sur 7, j'avais pas vraiment de week-end. Ça donnait des fois des scènes un peu épiques parce que la publicité est très nerveuse. Il se passe toujours quelque chose qui doit être fait très vite. Généralement, quand on devait partir à l'étranger pour animer un stage, juste avant vient un téléphone ultra urgent, il faut faire telle traduction pour une pub qui doit paraître la semaine prochaine et qu'on doit encore envoyer aujourd'hui. Des fois, c'était un peu dur parce que au tout dernier moment, on sautait dans la voiture pour aller animer notre stage. On était encore nerveux, on n'était pas reposé. Et pour enseigner du Reiki, c'est mieux d'être reposé.
Oui, et c'est en même temps un contraste tellement grand, hein, entre la publicité qui est commerciale, qui est vraiment dans le monde matérialiste, et puis les autres activités qui parlent beaucoup plus d'énergie, de choses qui ne se matérialisent pas et ne se voient pas.
Oui, ça correspond un peu à ma nature, hein. Astrologiquement, je suis poisson ascendant gémeaux et les deux sont des signes doubles. Alors, c'est quelque part, je suis même quadrophénique. C'est ma nature, ça me fait aucun problème de sauter d'un monde dans l'autre. Même j'aime ça, même j'ai besoin de ça.
Un jour avec Shinta, peut-être fatigué par cette vie très intense et tous ces voyages que vous avez faits pour donner des stages, vous avez décidé de vous installer à Corfou.
Oui, c'est-à-dire il y avait plusieurs décisions. Une décision, c'était de moins voyager pour animer des stages et surtout nous installer dans notre maison à nous, qu'on habite encore aujourd'hui sur les hauts de Granvaux. Donc c'était un changement de vie progressif, ce qui était favorisé aussi par le fait que quand on a commencé avec le Reiki, on était pratiquement les premiers. Dans la France toute entière, et puis elle est grande la France, il y avait 5 maîtres de Reiki. Aujourd'hui, dans chaque ville, il y en a 5. Dans chaque petite ville, il y en a au moins un. Ça s'est développé exponentiellement partout. Et c'est aussi la cause pourquoi on n'a plus tellement besoin de voyager. Et puis, on avait initié, maître en Reiki, plusieurs de nos propres élèves qui ont repris le flambeau.
L'aventure à Corfou a duré 3 ans. où vous aviez un lieu où vous receviez pour des stages et où vous habitiez aussi.
On a eu même plusieurs lieux. D'abord, on était à l'hôtel et on animait des stages à différents endroits. Après, on avait notre premier appartement pour habiter et puis on animait des stages à l'extérieur. Et finalement, on a loué à l'année un hôtel avec une dizaine ou même plus de chambres qu'on louait à des vacanciers. Et on a construit une salle de groupe attenante et un espace de soins pour animer nos stages et inviter des gens qui voulaient animer leur stage. Donc c'était un travail vraiment très intense parce que on devait tout faire. On était tombé du ciel bleu dans une situation où on était hôtelier et on n'avait aucune idée comment être hôtelier. On a appris sur le tas. C'était très intense et puis des fois presque trop. Je me souviens de scènes où, en plein de la ville de Corfou, j'étais tellement fatigué que je suis tombé par terre. Mais enfin, c'était une période très, très intéressante que j'aurais manqué pour rien du tout, parce que j'ai appris énormément. Nous avons appris les deux énormément. Ça a même soudé notre couple d'une façon encore plus forte.
Alors on parlera dans le prochain épisode de tout ce que ça t'a apporté, hein, ces découvertes, ces formations aussi intimement pour toi, hein, avant de les transmettre. Et ce qu'on n'a pas du tout évoqué dans ce chapitre, c'est que pendant que tu étais à l'agence Trio, quand tu es devenu indépendant, ben, continuait votre engagement auprès de Bhagwan devenu Osho, et il y a eu des voyages en Inde, il y avait un lien constant avec cette communauté.
Ben, aussi longtemps qu'il était en Inde, on y est allé pratiquement chaque année une fois. Après, il est allé en Oregon, aux États-Unis. D'abord, pendant quelques années, on ne pouvait pas y aller parce que c'était que sur invitation spéciale et puis on devait avoir des connaissances spécifiques pour aider à la construction du ranch. Ils ont acheté un ranch qui était... Il y avait trois choses. Il y avait des genévriers, un autre type d'arbre et des serpents à sonnette. C'est tout ce qu'il y avait.
Donc ils ont passé des années à planter des arbres et à construire avant que les sannyas comme vous puissent venir. Oui.
Mais des années, hein, ils l'ont fait en 2 ans. 2-3 ans. Hein. Et puis pendant ce temps, on continuait à aller dans les centres au chaud qui se trouvaient chez nous. Hein. Il y en avait un à Genève, il y en avait un à Zurich. On envoyait de l'argent pour la construction du ranch. C'était très intéressant. Ils vendaient des certificats d'arbres. Moi, je possédais un arbre fruitier qui était planté là-bas et puis que j'avais payé moi. Et une fois que le ranch était mis sur pied, on a pu y aller. Alors là, on est allé dans les vacances d'été. C'était formidable. Il y avait un lac artificiel dans lequel on pouvait se baigner, plusieurs restaurants. Et puis, pendant le festival, en été, le nombre d'habitants de cet endroit est passé de 2 000 à 10 000.
Il y a énormément de choses à raconter sur ce sujet-là qui fait l'objet d'un podcast à part avec Shinta. Et puis nous, on va se retrouver dans le dernier épisode pour parler de ce temps de vie d'aujourd'hui, plus calme, plus tranquille, parce que là, on mesure à quel point votre vie était riche et dense pendant toutes ces années. Avec le recul d'aujourd'hui, quelle est votre vie et comment vous la nourrissez avec Shinta? Et puis, qu'est-ce qui reste aussi de tous ces enseignements? Ça sera dans le prochain épisode.